divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Mathias Girel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'École normale supérieure, directeur du CAFES, cette unité de l'École normale supérieure qui regroupe un centre documentaire, qui édite des revues, organise des séminaires et des colloques. Et si j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est que viennent de paraître quasi conjointement un de vos ouvrages, « Science et territoire de l'ignorance » aux éditions Quae, que je ne saurais trop recommander, et l'ouvrage et les éditions, aux auditeurs de France Culture intéressés par les sciences, dans la collection intitulée « Science en question » que co-dirigent Raphaël Larrère et Catherine Donnard, et le dernier numéro de Raison présente, cette non moins excellente revue de l'Union rationaliste, le numéro 204 que vous avez co-dirigé avec Michel Leduc, intitulé de ce bel oxymore que je vais vous prier instamment de déployer dans un premier temps, la culture de l'ignorance.
Oui, alors ça pourrait sembler paradoxal, effectivement, de parler d'une culture de l'ignorance, mais en fait, si on prend un peu de recul, on a bien parlé il y a quelques années de mettre les sciences en culture, de faire des sciences un objet de culture. Et donc, il s'agit simplement ici d'étendre un petit peu l'entreprise pour couvrir cette fois l'ignorance. Et il y a bien lieu de parler d'une culture de l'ignorance et donc d'un regard informé qu'on peut jeter sur cette dernière, parce que on la réduit assez souvent à une sorte de page blanche dans le livre du savoir, et que soit le petit livre que vous avez cité ou le numéro de Raison présente, eh bien nous essayons de mettre en avant, d'éclairer des facettes de l'ignorance, des processus différents, des causes de l'ignorance. Nous essayons d'éclairer des angles morts du savoir, et donc il y a bien lieu de parler d'une culture de l'ignorance.
Alors l'expression reste oxymorique, et il y a plusieurs sens à l'ignorance. Est-ce que vous pourriez les déployer un peu ?
Oui, mais il y a de très nombreux sens. Il y a tout d'abord, tout bêtement, tout platement, ce que l'on ne sait pas. On dirait on est bien avancé, mais quand on réfléchit, on ne prêterait pas une ignorance aux pierres ou aux plantes, et donc on ignore que ce que l'on pourrait savoir. Et si on prend encore un petit peu de recul, il y a un sens extrêmement abstrait à dire que nos ancêtres préhistoriques peut-être ignoraient le théorème de Thalès, le boson de Higgs, ou tel fait ou loi qui fait maintenant partie de la connaissance, mais ce serait extrêmement abstrait que de leur prêter cette ignorance. Et donc si on veut être un peu plus complet, je pense qu'il faut dire qu'on ignore déjà que ce que l'on peut savoir, que ce qu'on a la faculté de savoir, et on ne peut attribuer de l'ignorance que sur la base, disons, du meilleur état de la connaissance. Et une fois qu'on a dit ça, mais ça ouvre des perspectives assez vastes, parce qu'il y a des cas assez triviaux où je vais ignorer ce que d'autres savent, ce que d'autres mieux informés savent, et il y a d'autres cas où nous sommes tous réunis dans la même ignorance. Quand on se situe vraiment sur les fronts extrêmes de la science, on sait beaucoup de choses, on peut poser beaucoup de questions, on peut s'appuyer sur beaucoup de faits, beaucoup de lois, mais par exemple la nature exacte et finale de la matière noire, par exemple, eh bien la communauté scientifique se pose des questions à ce sujet et donc formule bien une ignorance. Il ne s'agit pas, disons, de célébrer des vertus négatives en disant qu'il y a de l'ignorance de partout, mais plutôt de la cerner et d'en faire un enjeu d'enquête.
D'accord. Mais alors, quand vous travaillez sur la culture de l'ignorance ou, comme chez Quae, la science et les territoires de l'ignorance, au fond, vous avez en tête cette ère qu'on pourrait appeler, tout en la critiquant, cette ère de la post-vérité, ce moment où, à l'heure des fake news, des fausses nouvelles, on est face aux producteurs de doutes, d'ignorance, autant d'attitudes qui n'ont sans doute pas toutes exactement les mêmes intentions ni les mêmes effets, Et vous êtes de ceux qui travaillaient sur la distinction de différents concepts. Et dans votre ouvrage, vous tentez de travailler très rigoureusement à distinguer le complotisme, la production d'ignorance, les fausses nouvelles. Alors, pourriez-vous expliquer et illustrer chacune de ces postures dans le rapport à la connaissance?
Oui, alors vaste tâche. Mmh. on va essayer de tirer quelques fils là-dedans. Mmh. Déjà, une fois qu'on a distingué plusieurs variétés de l'ignorance, une fois qu'on a fait apparaître son rapport au savoir, à chaque fois c'est une manière d'interroger les lacunes de notre savoir. Une fois qu'on a mis en avant, disons, une texture qu'on pourrait dire normative, c'est-à-dire que quand on s'émeut d'une ignorance ou quand on en appelle à un savoir qui n'est pas là, on formule bien une demande, une attente. Une fois qu'on a, disons, précisé ce cadre, un des points sur lesquels je m'attarde dans le livre, c'est celui qui consiste à étudier l'ignorance non seulement comme un état, mais aussi comme un effet. Quelque chose qui peut être causé. Alors, on a toute une littérature, hein. C'est pas forcément quelque chose de très nouveau de voir les choses comme ça. La critique des superstitions au XVIIIe siècle, par exemple, reposait bien, elle aussi, sur l'idée que certaines formes d'ignorance peuvent être créées, parfois créées intentionnellement. Et donc, une fois qu'on a ce regard-là sur l'ignorance, donc l'ignorance conçue comme un effet, eh bien, il y a plusieurs stratégies explicatives. Dans un certain nombre de cas, on va renvoyer à des processus, des mécanismes aveugles. C'est de l'ignorance qui a été créé mais qui n'a pas forcément été voulu. Disons qu'à un moment donné, avec des moyens humains et financiers limités, on ne peut pas explorer tous les fronts de la science, tous les fronts du savoir en même temps. Et donc, quand on se concentre sur un aspect, on est forcément obligé de lâcher du lest sur d'autres. Donc, mécaniquement, on crée de l'ignorance sur ces aspects-là. Et puis, donc, il y a un aspect qui est un petit peu plus spectaculaire, qui a été étudié par des historiens des sciences, et qui, lui, relève de l'ignorance stratégiquement produite, créée intentionnellement. Et on renvoie souvent, disons, aux cigarettiers, à leur stratégie dans les années 1950, pour se servir de la science, pour attaquer la science. Et certains historiens des sciences ont repéré, disons, le même motif dans le domaine du négationnisme climatique, ou plutôt de la dénégation des origines anthropiques du réchauffement climatique, et dans un certain nombre d'autres domaines sanitaires et environnementaux. Donc déjà, il y a ce cadre général où, même si on dit que de l'ignorance peut être produite, créée, on ne sait pas forcément si elle est produite mécaniquement ou si elle est produite stratégiquement par certains acteurs. Donc ça donne le cadre général, et là-dedans, on peut distinguer effectivement des cas et qui correspondent à autant de fragilisation de la connaissance et du savoir. Le complotisme, c'est une sorte de fragilisation de la confiance et des connaissances publiques. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un certain nombre d'énoncés ordinaires ou de connaissances admises qui, en fait, correspondent à des intentions cachées que les dénonciateurs du complot sont les seuls à maîtriser. Et quand on dit ça, on fragilise un certain pan des connaissances publiques, publiquement admises. On les met en doute, et très souvent, la dénonciation du complot ne va pas seule. C'est-à-dire qu'on va mettre en doute l'autorité d'agences, de gouvernements, d'experts. Et donc, ça fait boule de neige. Et le rapport qu'on peut avoir avec les enquêtes sur l'ignorance produite et la manière dont la science peut être utilisée pour contrer la science, on pourrait dire que dans le complotisme, ce qui est en jeu, c'est la figure de l'enquête. Le complotiste, c'est-à-dire le dénonciateur de complot, se met en avant comme une forme d'enquêteur qui dévoile les causes cachées du monde. Et nous, on pourrait dire que c'est une enquête la plupart du temps incomplète, parce qu'elle est gouvernée par des biais, parce qu'elle ne fait pas le tour de toutes les causes possibles. Donc ça, c'est un premier plan. On a la production d'ignorance que j'ai présentée, qui, dans ses formes les plus typiques, peut être associée aux cigarettiers, à certaines boîtes à idées, think tanks, autour des énergies fossiles, mais il y a aussi beaucoup d'autres cas dans l'industrie des plastiques, de l'amiante, etc. Enfin, c'est assez bien documenté, où là, effectivement, on s'appuie sur des scientifiques ou de la science en épidémiologie ou des études parfois parcellaires pour critiquer l'épidémiologie officielle, pour explorer d'autres causes, d'autres facteurs par exemple pour le tabac, d'autres causes du cancer du poumon que le fait de fumer. Alors on va financer des études sur les virus, par exemple, sur le mode de vie moderne, sur les poussières. Donc on a une sorte de production qui fragilise de la connaissance médicale et sanitaire existante, tout en s'appuyant sur des moyens scientifiques, oui. Et cette fois sur l'autorité de la science, parce qu'on cherche, on va pouvoir chercher à débaucher, par exemple, des chercheurs reconnus. Et on a enfin, alors c'est un peu rapide tout ça, mais on a ce troisième massif dont on parle aujourd'hui sous le nom de la post-vérité, mm-hmm. des fausses nouvelles ou de l'infox, comme on propose de le dire, où là c'est assez différent, c'est des informations plutôt que des connaissances qui se retrouvent à circuler dans l'espace public, et en particulier dans cet espace très particulier qui est celui des réseaux sociaux la plupart du temps, et où finalement la tâche de vérification est déléguée à d'autres. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de propager l'information, ce qui présente un intérêt pour les acteurs, puisque le clic sur une information, sur des murs par exemple d'informations de réseaux sociaux, ou même sur des titres d'organes de presse, est rémunérateur. Bien et sûr. Donc pour une même vérité, vous avez plutôt intérêt à la présenter d'une manière qui va générer du clic. Et où là, donc on a une sorte de régime où la circulation de l'information l'emporte sur l'autorité de la connaissance et sur la responsabilité qu'on endosse à cet égard. Alors voilà, en deux ou trois minutes, voilà ce qu'on peut dire. On a trois logiques assez différentes, et je pense qu'il est important, lorsqu'on parle de post-vérité, de bien voir que on a une logique différente. Dans le cas de l'ignorance produite stratégiquement, on est encore dans un monde où la science et la connaissance exercent une autorité, puisqu'il y a encore un enjeu à les contrefaire ou à se parer de leur autorité. Alors que je pense que si on entre bien, mais ça reste à discuter, il y a un intense débat intellectuel, si on entre bien dans une ère de post-vérité, eh bien, disons, cette référence à la connaissance vraie, fiable, n'est même plus une référence, plus comme référence, n'agit plus comme norme. Et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit quand on étudie ces phénomènes.
Bien sûr. Alors, dans cet excellent numéro de Raison Présente, Sylvestre Huette se pose la question de savoir que pouvons-nous faire contre ces productions de l'ignorance ? Comment ne pas être instrumentalisé ? Comment entrer en résistance ? Et donc, c'est la question que je vous pose. Est-ce que l'exercice de la critique et de la rationalité vous paraît un rempart suffisant ?
Rien n'est jamais suffisant. C'est-à-dire qu'il faut conjuguer des efforts. Mais je pense qu'il faut prendre la mesure de la manière dont nous sommes convoqués par les débats publics et par les usages publics qui sont faits de connaissances ou d'informations. Et je pense que chaque communauté doit se sentir convoquée, c'est-à-dire pas simplement les très bons spécialistes qu'on a, qui prennent la parole souvent sur cette antenne, par exemple, ou sur d'autres, et c'est très bien qu'ils le fassent, mais cette voie demande à être complétée. On a des spécialistes du climat, on a des physiciens, on a des biologistes, on a des médecins. Enfin, je pense que chacun a la mesure de ses compétences et de son expérience, est engagé par ce débat et doit prendre la parole, c'est-à-dire exercer un discours responsable, s'exposer à la critique. Et je pense pas qu'il y ait une sorte de parade universelle face aux théories du complot, aux fragilisations du vrai, qui consisterait à enseigner l'esprit critique en général. Je pense que c'est une vertu cardinale, mais je pense qu'elle n'est jamais mieux exercée que quand on l'enseigne à propos d'une connaissance disciplinaire particulière, bien maîtrisée. Par exemple, on parle beaucoup à l'occasion d'un sondage sur les théories du complot, d'une résurgence des théories de la Terre plate. Alors, j'ai du mal à savoir si c'est un canular ou s'il y a vraiment des gens qui croient à ça. Mais voilà une occasion formidable pour un professeur de physique de faire d'engager un débat sur la manière dont un terre-platiste pourrait expliquer le phénomène de l'éclipse. Comment expliquer qu'une terre plate produise une éclipse d'apparence circulaire ou semi-circulaire ? Comment expliquer les mouvements des eaux dans l'océan austral, par exemple ? Dans le cas des négations du cadre darwinien ou évolutionniste de la biologie, c'est aussi un support, une stimulation pour enseigner ce cadre-là dans le cadre d'un enseignement de biologie. Quelqu'un qui nierait totalement l'idée d'évolution, eh bien, que fait-il de tous les spécimens qu'on a au Muséum d'Histoire Naturelle ? Qu'est-ce qui fait de la résistance, par exemple, des bactéries ? Comment est-ce qu'il explique ces phénomènes-là ? Et je pense qu'il est dangereux de manquer des occasions de préciser des connaissances ou de les défendre dans l'espace public. Et c'est aussi, c'est un point que j'avais soumis lorsque j'avais été convoqué dans la concertation nationale sur les vaccins. Mm-hmm. De fait, il y a un certain professeur bien connu qui avait instruit un doute important sur les vaccins, principalement via le réseau YouTube. Mm-hmm. Et je pense que il faut répondre aussi à ces paroles-là dans le domaine ou dans les arènes où elles sont émises. C'est-à-dire qu'un un rapport du haut de l'académie, l'académie de médecine par exemple, mm-hmm. est nécessaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une connaissance experte qui est estampillée. Mais je pense que si on veut s'attaquer à ces sources de fragilisation de la connaissance, mais il faut aussi accepter d'aller sur leur terrain. C'est une tâche ingrate. Pour beaucoup de chercheurs, ils ne sont pas valorisés, ni même vraiment rémunérés pour cela, puisqu'on attend surtout d'eux qui publient des articles et qui publient de la recherche. Mais je pense que c'est une tâche tout à fait essentielle.
Donc, au fond, si je vous entends bien, Mathias Girel, vous expliquez que pour répondre à l'ignorance, il faut toujours plus de connaissances.
Toujours de connaissances, et une connaissance qui est consciente de ses angles morts, c'est-à-dire de ses limites, qui est consciente des questions, des défis qu'on peut lui adresser. Oui, je pense que c'est ce que permet une réflexion sur l'ignorance, avoir un point de vue plus large sur ses propres connaissances.
Mathias Girel, je vous remercie. Le dernier numéro de Raison Présente est donc intitulé « La culture de l'ignorance ». Il est coordonné par Mathias Girel, qui a écrit non seulement l'avant-propos, mais un article sur ignorance stratégique et post-vérité, ainsi, comme je l'ai dit, que Michel Leduc. Je rappelle l'ouvrage de Mathias Girel, « Science et territoire de l'ignorance » aux éditions Quae. Je rappelle également que nous avions interrogé à l'antenne de l'Union rationaliste Harry Bernas.
Qui a un article dans ce numéro.
Qui a en effet signé un bel article sur Mayak dans ce numéro. Je remercie Dany Journeau et Élise Leu qui ont rendu possible cette émission. Et je vous dis au mois prochain.